Cours de philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 12 mai 1999, à Saint-Jodard.
On se dit bonjour par le cours. Pouvez-vous revenir sur la question de notre responsabilité et du passé? Car enfin, la responsabilité ne disparaît pas avec l'acte. On en vit souvent les conséquences. Oui. C'est sûr. La responsabilité, elle est premièrement dans notre volonté. Donc, dans notre intention de vie. C'est l'acte, l'analyse de l'acte volontaire. L'acte volontaire est responsable des conséquences par l'intention. Un amour qui devient conscient, qui nous finalise. Un premier amour, c'est différent, il est purement intérieur. Alors, on est responsable de l'accepter ou de ne pas l'accepter, mais pas des conséquences. Un amour devient efficace grâce à l'intention, parce qu'il dirige notre vie, il organise notre vie par l'intention morale, et après, par nos choix. Tout cela est encore intérieur et volontaire, c'est sûr. Nos choix d'accepter ou de refuser. Puis après, l'imperium nous fait passer dans l'exécution. Alors là, ça regarde les autres aussi. Ils sont engagés. Tant que ça reste l'intention et le choix, c'est quelque chose qui demeure au-dedans de nous-mêmes. Et par l'imperium, ça passe à l'exécution. Et l'exécution atteint les autres. C'est sûr. On entraîne par mode d'exemple. Si on est connu, un frère de Saint-Jean fait quelque chose, les frères de Saint-Jean font. On entend ça tout le temps. Tout de suite, des 1, et ça c'est l'exécution. Tant que vous étiez dans l'intention et dans même le choix, personne ne le savait, sauf peut-être des amis. Dès que vous passez à l'exécution, c'est l'exécution. Ça se voit. Alors c'est très vrai que on est responsable non seulement de ses intentions, non seulement de ses choix, mais on est responsable de l'exécution. Et dans l'exécution, on doit faire attention à la répercussion que ça donne. Un tel a fait ça, donc c'est bon. On est responsable. Tout cela regarde la volonté. On est responsable de tout ce qui est volontaire. L'exécution, on en est responsable tant que c'est volontaire. Si la passion intervient, la passion de crainte, la passion d'amour, d'affection. La passion n'est pas volontaire. Elle est inscrite dans notre sensibilité, dans notre affectivité sensible. Mais elle n'est pas volontaire. Elle diminue la volonté quand elle est avant l'acte. C'est pour ça qu'elle diminue la responsabilité. Un homme ivre n'est plus responsable de ses actes. Mais il est responsable de s'être mis dans l'état d'ivresse. Il prend un repas sans s'apercevoir que le vin est excellent. Il s'en aperçoit trop bien même. Mais il se laisse prendre. Et après, il doit conduire. Il a perdu une certaine quantité de réflexes. À ce moment-là, un accident arrive. Il en est responsable. Il est responsable de ne pas avoir été assez prudent, sachant que facilement, ça glisse, terrain glissant. Mais l'acte lui-même est moins responsable. Vous n'avez qu'à voir la manière dont les avocats plaident pour supprimer la responsabilité. On fait appel au médecin, on fait appel à tout, 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 tout. Parce que ça diminue l'aspect volontaire. Vous voyez, tout cela s'explique par le point de vue de la volonté. Une volonté s'incarne dans l'imperium. C'est le moment de l'incarnation, ça, de mon acte. C'est au moment où on exécute que ce qu'on avait pensé, réfléchi, choisi, passe à l'acte et dans l'exécution. Donc le corps est présent là. Le corps est présent aussi dans le choix, mais il est présent dans le choix à titre de connaissance que j'ai de mes faiblesses ou de ma force. Je pourrais facilement résister. Je sais que non. Je pourrais difficilement résister devant telle ou telle personne. Donc je fais attention à mon choix. Mais vous voyez, c'est encore la connaissance de l'expérience que j'ai. Donc la conscience, je suis conscient de cela. Dans l'exécution, il y a toujours une part d'inconscient. Parce que vous n'avez pas fait suffisamment attention que la rencontre avec cette personne que vous avez vue il y a 10 ans a beaucoup changé. Et vous vous trouvez devant quelqu'un qui n'est plus le même. Et vous n'en pouvez rien. Il y a toujours une part d'inconscient dans l'exécution. Toujours. Et une répercussion par le fait même. Une part d'inconscient aussi vis-à-vis de l'incarnation de votre choix dans l'exécution. Vous voulez faire ça. Vous aviez prévu, mais vous n'aviez pas prévu pleinement et totalement. Oui. Alors, c'est très difficile de voir le facteur de responsabilité dans ce domaine. Certaines personnes ont des réflexes très rapides. C'est sympathique, mais attention. C'est peut-être des réflexes trop instinctifs, trop sensibles, trop affectifs. Et c'est pas assez imprégné d'intelligibilité. C'est pas assez conscient. Donc, c'est sûr, la responsabilité ne disparaît pas avec l'acte. Vous avez blessé quelqu'un, vous en êtes responsable. Vous avez écrasé quelqu'un, vous êtes responsable. Et vous êtes poursuivi par la loi. Parce que votre acte était conscient, était volontaire. Si votre acte n'était pas conscient et pas volontaire, la responsabilité diminue énormément. Vous êtes responsable des dégâts, mais vous êtes moralement, vous êtes très peu responsable. Vous voyez, les deux responsabilités différentes. Une responsabilité légale et une responsabilité morale. Et c'est nécessaire de faire la distinction. La responsabilité légale, c'est le fait visible qu'on peut mesurer, qu'on peut expérimenter. Et vous êtes responsable de ça. Légalement, pas moralement. Peut-être, hein, pas toujours, des fois. On est conscient moralement, mais pas toujours. Je me souviens, après un accident, un frère qui n'était pas français, alors il était dans son pays, par le fait même, c'est, comme j'étais à côté de lui, la police m'a appelé devant ce frère. Alors, c'est très curieux d'être responsable de cet accident. Il dit, oui, j'étais à côté de lui, je suis responsable parce que j'étais à côté de lui. Et voilà. Bon. Et cet accident avait été assez fort au point de vue secousse, si vous voulez. On avait secoué, si vous voulez, un poteau télégraphique en ciment. Donc il y avait une éraflure. C'était pour cette éraflure qu'on m'appelait. Vous comprenez quoi ? L'éraflure était loin. Alors, légalement, c'est vrai, je trouve que, quelle amende il y a eu pour sans doute remettre un peu de ciment. C'est du légal. On a constaté ça, on a su que c'était l'accident. Les gens du l'endroit savaient. Ou le garage, ils savaient. On voit très bien deux choses différentes. Les conséquences d'un fait. Alors très souvent, il y a des conséquences légales, qui sont sociales et qui sont constatables de l'extérieur, mais qui ne jugent absolument rien sur la responsabilité morale. Alors, c'est intéressant ça, parce qu'il y a la mémoire du poteau. C'est resté dessus. Donc il y avait la mémoire du poteau, de l'accident. Il continuait de gémir. Et on a constaté que le poteau avait gémi. C'est intéressant, vous voyez, pour regarder les différents degrés de mémoire. Je peux employer le mot mémoire dans tous ses sens. Et la terre, le poteau qu'on a effleuré, l'arbre qu'on a écrasé, tout ça, il a mémoire. La mémoire provient toujours, oui, dans ces cas-là, d'une certaine violence extérieure. Il y a eu violence. Alors, c'est bien évident que la responsabilité dépasse l'acte fait, mais la responsabilité est premièrement dans l'intention et le choix, au plan moral. Donc distinguer les responsabilités aux différents niveaux. Puis la responsabilité légale d'avoir abîmé un poteau électrique. Ça, c'est le bien commun. Je ne comprends pas comment se pose la question du lien entre la mémoire et le corps. Ah, ça c'est très intéressant et très capital. Vous voyez, j'ai pris exprès, la question me conduisait à ça, mais en y réfléchissant, je me suis dit, il y a là quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on n'appelle pas mémoire du poteau électrique, parce que ça dirait, mais non, il n'y a aucune mémoire, ça. Mais la trace. cette trace, elle provient d'un acte violent extérieur. On le constate. Bon. L'apathie. La mémoire du corps, c'est le corps qui a pâti. Le corps a pâti pour des quantités de raisons. Disons. Il peut pâtir. Bon. Parce que on n'a pas soigné assez vite. Un enfant était, un tout petit enfant était, la mère n'était pas assez vigilante. Alors il a pâti. Cet exemple que je vous donnais dans l'État d'Israël, vous voulez, dans les kibbutz religieux, aller le plus loin possible pour voir si ça pouvait se réaliser. Et on s'est aperçu que si vous retirez l'enfant à la mère, tout de suite, que vous le donnez à des infirmières, mères adoptives, les répercussions, quand l'enfant avait 12 ans, il était en retard. Son intelligence n'était pas aussi développée. Oui, répercussions, il a pâti. Et sur le moment, il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. Il ne s'apercevait pas de ça. Et là, on s'en aperçoit dans les conséquences qu'on peut mesurer, qu'on peut essayer de comprendre. Et on recherche la cause. Alors, c'est une recherche inductive, c'est une recherche archéologique. La méthode archéologique, c'est l'induction à l'inverse. Regardez Foucault. C'est intéressant tout ça, parce que y a l'induction, elle est finalisée par l'interrogation. Et vous dépassez les choses sensibles pour poser un principe, pour poser une fin. L'induction qui conduit à l'acte. L'induction qui conduit à la substance, l'induction qui conduit à l'âme, l'induction qui conduit à la nature. Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus d'induction. Dans la plupart des cas, au point de vue philosophique, parce qu'il n'y a plus de recherche des causes. Il n'y a plus de recherche de la causalité finale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la recherche du fondement. La morale stoïcienne ou la philosophie stoïcienne. Si cela n'avait pas eu lieu, cette blessure n'aurait pas eu lieu. Oui, si et l'acte. Je vous ai donné cet exemple quand Jésus dit: si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le paraclet. Quel est le genre de ce raisonnement? Est-ce que c'est un raisonnement inductif? Non. C'est un raisonnement qui recherche la condition sine qua non. Si je ne m'en vais pas, il n'y aura pas ça. C'est un raisonnement rhétorique. Il n'est pas inductif pour chercher la cause propre. Il est rhétorique. Il est un raisonnement qui montre le lien historique. Ce sont des liens historiques. C'est pour ça que j'appelle ça archéologique. Des liens historiques entre tel événement qu'on n'a pas connu, qu'on a complètement oublié, qui est dans les ténèbres, qu'on pose en raison de telle angoisse, de telle indétermination, de telle difficulté qu'on a. On constate cette difficulté, et puis on remonte. Donc, c'est le lien, la relation qu'il y a entre un fait existentiel et un autre fait existentiel qu'on ne connaît pas. Vous voyez, alors, il y a quelque chose d'analogue à l'induction. L'induction, vous, et je crois que ça, c'est plutôt de la critique hein, que je vous fais là. Mais c'est une critique très... Et on est obligé de le faire quand il s'agit du corps, quand il s'agit de la cause matérielle. Et on confond constamment aujourd'hui les deux. Donc, on est stoïcien, autrement dit. C'est bien que les historiens de la pensée voient que dans toutes les périodes qui sont critiques, on retombe dans la logique stoïcienne. Ça, c'est un fait. C'est très curieux. Parce que c'est pacifiant. Mais c'est pas étonnant, dans le temps, il y a eu ça, j'en peux rien. Ça pacifie. Mais est-ce que c'est la cause? Vous n'en savez rien du tout. C'est une coïncidence. C'est une cause sans doute matérielle, mais uniquement une coïncidence. Oui. Si. S'il fait beau aujourd'hui, demain il pleura, il va pleuvoir. Étant donné que la plupart du temps, ça change tout le temps. Oui. Et c'est pas une cause. Le beau temps n'est pas cause du lendemain. Oui. Si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous en parler. Donc, Jésus, et c'est intéressant puisque c'est dans l'Écriture. Et c'est là où on voit que vous interprétez l'Écriture en fonction de votre intelligence. Donc, en fonction de votre philosophie. L'encyclique. Foi et raison. Toute interprétation de l'Écriture, aussi bien exégétique que théologique ou mystique, c'est l'intervention de l'intelligence. Parce que la foi me donne les réalités dans ce qu'elles sont d'existentiel. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le parallèle. Quel est le lien? Jésus affirme le lien entre deux faits. Et j'interprète. Si je veux connaître. Oui. Alors, prenons l'exemple classique d'aujourd'hui. Je suis angoissé, puisque c'est le mal habituel. Il n'y a rien d'original. Quels sont ceux parmi vous ne sont pas angoissés, levez la main. Hein, personne ne lève la main. Quels sont ceux parmi vous qui sont de temps en temps angoissés? Alors là, tout le monde lève la main. On est tous angoissés. On est dans un monde angoissant. C'est vrai. Les guerres, regardez les interprétations de la guerre actuelle. C'est extraordinaire de voir la gamme des interprétations. Et c'est intéressant, ça. C'est là où vous faites l'application de votre philosophie. Et que vous voyez que la philosophie, quand on dit qu'elle n'est pas pratique, c'est tout à fait faux. Les autres partent tout simplement dans une imagination. Et ils prennent l'imagination aussi bien que la vérité. Il ne faut pas la distinction. Parce qu'ils ne raisonnent pas. La philosophie nous donnerait conscience de l'induction et conscience de ce raisonnement stoïque qui n'est pas l'induction. La différence entre les deux, je défie quelqu'un de faire la distinction sans avoir fait la philosophie, et même une philosophie aristotélicienne. Parce que on ne connaît le mal que par le bien. Alors, l'induction, le passage de l'expérience à la découverte du principe, ça, c'est une opération intellectuelle qui permet à mon intelligence de naître, comme intelligence, la saisie de l'être, la saisie du principe, la saisie de la finalité. Tant que je n'ai pas saisi la finalité, c'est dommage, mais je ne suis pas un homme conscient de la responsabilité de ses activités. Je suis. suivre. Je suis les autres. Un mouton de panurge. Je ne prends pas ma responsabilité. Donc, l'induction, opération philosophique propre à Aristote, c'est ce qui caractérise la philosophie aristotélicienne. Quand il s'agit de la finalité, aucun autre philosophe ne l'a fait. Cherchez bien. Donc, au seul choix, on devait faire l'ascension de 30 livres en un mois. Il fallait aller vite. Alors je regardais toujours le point. Quand il s'agissait de la philosophie, a-t-il saisi la finalité ? Ah oui, bon. Alors, où a-t-il saisi un principe ? Aucun. Rien de l'induction. Donc, c'est descriptif. Si vous n'avez pas d'analyse, c'est descriptif. Alors, vous décrivez. Alors, décrire, on décrit avec beaucoup d'imagination. On décrit avec beaucoup d'expérience. C'est très bien. C'est très intéressant. C'est pas fatigant. Il n'y a pas l'effort de celui qui tend l'arc pour induire. L'induction, vous tendez votre intelligence par la question. Et la flèche part. Et dépasse le sensible pour atteindre la source cachée. Alors, l'induction, c'est donc grâce à l'interrogation, la saisie du principe. Qu'est-ce que vous faites dans cette méthode archéologique ? Pour saisir la mémoire du corps, parce que c'est les expressions qu'on donne aujourd'hui, cette mémoire du corps, est-ce que c'est métaphorique ? Est-ce que c'est réel ? Ça, c'est la question du philosophe. Heidegger dit ça. C'est l'intérêt de Heidegger. C'est qu'il veut rétablir la différence entre la saisie du mythe. Le mythe, c'est toujours symbolique. Ce n'est pas réel. Et la distinction du logos, donc du principe. Et il dit que c'est l'œuvre principale du philosophe de faire ça. Distinguer le moutos du logos. Donc il faut savoir qu'est-ce qui me permet de saisir le logos. Qu'est-ce qui me permet de saisir le logos ? C'est l'induction. Donc, vous voyez que c'est quand même très actuel, ça. Il ne faut pas dire que c'est de la vieillerie d'Aristote, pas du tout. C'est l'intelligence qui est ça. Et mon intelligence depuis Aristote n'a pas changé. Mon milieu vital a beaucoup changé. Mes expériences ont beaucoup changé. Mais l'intelligence, dans son acuité d'intelligence, dans son acuité de saisir la finalité, est-ce qu'elle a changé ? Elle s'est encombrée d'une quantité de mémoire. Ça oui, ça c'est très vrai. Les topics historiques pour Aristote, c'était très rapide. Pour nous, c'est très long. Parce qu'il y a des chemins divers. C'est très long. Alors, elle s'est encombrée. Et elle s'encombre quelquefois tellement qu'elle n'arrive pas au but. L'interrogation dans l'arc. Quand je suis en face, donc, de cette méthode archéologique, je constate un fait. Le fait que vous constatez, je suis angoissé. Telle ou telle chose qui m'angoisse, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Assister à un cours de métaphysique, ça m'angoisse. Passer un examen, ça m'angoisse. Il suffit d'être devant le carême, avant le carême, mercredi décembre. Ça m'angoisse, parce que ça dure longtemps. Et ainsi de suite. Oui. Il y a comme ça des petits trucs qui vous angoissent. Quand je rencontre tel frère, je ne sais pas pourquoi, ça m'angoisse. Ou telle sœur, ça m'angoisse. Le fait existentiel. s'est répété plusieurs fois. Quand il y a eu lieu une seule fois, je ne m'inquiète pas. Je rate le tournant. Ce n'est pas inquiétant. Mais si chaque fois que je passe par ce coin, je rate le tournant et je me jette dans le fossé. Alors quand c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, hein, vous racontez ça à votre supérieur en rentrant, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de terrible, ce tournant? Vous voyez, la répétition joue un rôle énorme. Pas dans l'induction. La répétition joue un rôle énorme. Or, la répétition, elle est quantitative. Elle n'est pas qualitative. Vous ne répétez jamais la qualité. C'est pour ça qu'elle est si rare. Tandis que la quantité, ça se répète. Ça s'accumule. Il y a l'accumulation des événements qui fait un poids quantitatif. Et un poids quantitatif tel que vous avez envie de le supprimer. Si je pouvais enlever ça. Ah, si je pouvais enlever ça. Vous voyez, alors affectivement, c'est important. Parce que l'interrogation se remplace par l'affectivité. Quand il s'agit de la méthode archéologique. Cette répétition des faits qui fait que ça rate. Parce que c'est négatif. Quand il y a une répétition optimale, une répétition positive, vous n'allez pas voir le médecin. Mais quand c'est une répétition négative, vous allez voir le médecin. C'est facile à comprendre, ça. Oui. Les jours fastes, les jours néfastes. C'est vieux, vous savez ça. Vous connaissez un père dominicain qui un jour m'a fait une confidence. Il est mort maintenant. Alors dans le ciel, il voit que c'est pas tout à fait ça. Il a une confidence. Tout ce que je fais le 23 de chaque mois, ça rate. Alors je le savais. Alors méchamment, le 23 de chaque mois, je faisais des petites souris. C'est curieux, tous les 23 de ce mois, il y a ça. Il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui m'ennuie. Ça devenait quelque chose qui était une angoisse. Donc le 23 de chaque mois, jamais il n'entreprenait quelque chose. Il faisait le mort. Et pour faire le mort, il restait dans son lit. C'était très simple. Ce jour-là, il n'existait pas. Alors quand ça tombait un jour de cours, on a inventé quelque chose le 23 de ce mois. On ne disait pas le 23, on disait il est malade. Mais on le souhaite bien, demain il sera là. N'inquiétez pas, parce que le lendemain c'est le 24. Et là, tout est sur les... La multiplicité, c'est très très curieux. Le phénomène de multiplicité qui joue énormément au suffrage universel. Le suffrage universel, c'est pas seulement pour les élections, mais c'est pour le gouvernement de notre prudence. Et quand vous prenez le suffrage universel comme gouvernement de notre prudence, c'est très mauvais. Parce que le suffrage universel remplace sa finalité. Alors vous allez vers quelque chose qui... Vous ne recherchez plus les causes, vous voyez l'accumulation. Alors vous voyez cette quantité, et elle vous gêne, elle vous arrête. Elle vous met dans un état d'inhibition. Vraiment un état d'inhibition. Vous n'arrivez plus à dépasser. Vous êtes inhibé. Pourquoi? Oui. Vous cherchez, alors à ce moment-là, d'où ça vient. Vous recherchez. Mais vous ne pouvez pas découvrir un principe. Parce qu'un principe vous éveille. Un principe vous permet d'aller de l'avant. Un principe permet la croissance. Ça montre la finalité. Mais vous cherchez un blocage. À quel moment y a-t-il eu ce blocage? Et ce nœud. Ce nœud que je n'arrive pas à enlever. Alors vous cherchez, vous remontez à Alors je dis, c'est archéologique, vous voyez, parce que j'avais un très bon ami dominicain, le père Devaux, qui était un excellent archéologue. Il était reconnu à Jérusalem comme le meilleur des archéologues. Je l'aimais beaucoup. Et je l'ai interrogé sur sa méthode archéologique. Il m'avait invité à venir l'accompagner dans ses recherches. Je ne pouvais pas. Ça m'aurait intéressé. Et de voir si ce qu'on découvre est bien, non pas la cause, mais le fondement. C'est pas la même chose. Un fondement, c'est une réalité, c'est pas un principe. C'est une réalité existante. Vous découvrez un pavement. Oui, on a vu ça pour les recherches archéologiques de la synagogue de Capharnaüm. La synagogue actuelle de Capharnaüm. Bon, on reconnaît, on a cru un moment que cette synagogue était la synagogue où Jésus avait enseigné le pain de vie, après la multiplication des pains à Capharnaüm. Et j'ai pu... avec un groupe de pèlerins, on avait dit, on entrera dans ce lieu où il y a un gardien, avant que le gardien soit éveillé, pour faire une conférence dans la synagogue de Capharnaüm, là où Jésus est fait. C'est impressionnant, du reste. Je comprends que ça a un intérêt. Mais c'est pas à cause de ça que la conférence qu'on fera sera nécessairement plus divine. Non, c'est un fondement, c'est pas une cause. Pas la même chose. Et là, à ce moment-là, on croyait que c'est ça. Puis on a découvert que pas du tout. Cette synagogue était du 5e siècle. Et elle s'était construite au-dessus de la première synagogue dont on a redécouvert le pavement. Oui. Donc, on était dans l'erreur en pensant que cette synagogue était celle de Jésus. Et on a cherché, et on a trouvé l'autre. C'est très difficile, hein, de savoir si la dernière pierre qu'on a découverte est vraiment fondement ou n'est pas fondement. Alors, je demandais au bon père de vous, comment vous pouvez distinguer? Alors il me dit, quand il y a des lézardes, alors on peut creuser. Quand il n'y en a pas, c'est ennuyeux de détruire, si c'est le vrai. Alors on va autour. Oui, on va autour pour voir si autour on ne découvre rien d'autre. Mais au fond, on tâtonne. Ce n'est pas la cause, c'est le fondement. Y a-t-il un fait? Oui. Et ça, c'est très important. Quand vous lisez, justement, une philosophie qui est la base d'archéologie, de découvrir si c'est vraiment le fondement propre. Je ne dis pas la cause propre. Le fondement est toujours lié à la cause matérielle. Mais c'est une cause matérielle qui existe. Ce n'est pas une cause matérielle saisie par l'intelligence comme étant un principe, mais c'est une réalité. Et il faut savoir que cette réalité est vraiment celle sur laquelle tout repose. La pierre angulaire. Et la pierre angulaire. La pierre angulaire, est-ce un fondement? Est-ce une cause? Si elle est vraiment pierre angulaire, elle est plus que le fondement. Parce qu'elle donne la direction pour tout le reste. Permet à la construction d'être une construction droite. Tandis que le fondement est purement l'obstacle, ce qui est ultime. Donc vous voyez, causalité, pierre angulaire, fondement. Cherchez bien la distinction. Parce que c'est ça qui nous permet de comprendre le lien entre la mémoire consciente et le corps. Alors, je continue. C'est pour ça que cette méthode archéologique n'est pas une induction. Puisque c'est un fait expérimenté, intérieur, à un autre fait existant, qui n'est pas un principe. Qui joue sûrement un rôle, il y a sûrement une relation, il y a des chances, mais quel genre de relation, je n'en sais rien. Cette question s'inscrit-elle d'une manière nécessaire dans la démarche de philosophe réaliste, ou bien est-ce une question posée par la philosophie moderne? La mémoire du corps est une question qui se pose à travers la psychologie, qui peut être une métapsychologie. On cherche toujours la métaphysique, il ne faut pas l'oublier. Alors on peut chercher une métapsychologie ou une métaphysique. Alors, dans une philosophie réaliste, on comprend que la mémoire provient de mon âme. Elle est liée à la vie. Elle est liée à la vie sensible. Et c'est la vie sensible qui garde les impressions que j'ai, plus ou moins violentes, plus ou moins fortes. C'est dans ce sens-là que, en vieillissant, la mémoire retient moins. Parce que on a l'impression qu'il y a eu tellement de choses écrites sur le tableau que ça s'inscrit moins. C'est du déjà vu. Là, ça s'inscrit moins. Tandis que quand c'est du premier vu, ça s'inscrit bien. Donc, la mémoire est d'ordre vital, sensible. Il n'y a pas de mémoire intellectuelle. Contrairement à ce que dit saint Augustin. Pour saint Augustin, la mémoire fait partie des facultés intellectuelles. Il y a intelligence, volonté, mémoire. La trilogie. La trilogie, la petite trinité interne, spirituelle. Pour saint Thomas, il y a, et Aristote, il y a intelligence et volonté. Ils n'ont pas besoin de mémoire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est inscrit au point de vue intelligence ne s'inscrit pas dans le corps. La volonté et l'intelligence n'ont pas d'organes sensibles. Et parce qu'ils n'ont pas d'organes sensibles, ça reste. Ça peut être enfoui. Alors on peut se rappeler qu'être de quelque chose au bout d'un certain temps, mais ça revient. La mémoire est d'ordre sensible. À cause de l'organe sensible, de nos expériences externes et intérieures, qu'il y a une mémoire et une réminiscence. Le corps. Animé par l'âme. Mais le corps n'a pas de mémoire. Le corps, causalité matérielle. La causalité matérielle, qu'est-ce qu'elle fait? Le propre de la causalité matérielle. Ça, il faut regarder alors la métaphysique. Il faut regarder la philosophie du vivant. Il faut regarder la philosophie de la nature. Il y a trois niveaux de la causalité matérielle et qui sont importants. Le niveau physique, le niveau vital, le niveau spirituel. Parce que ma vie, elle est ma vie quand elle est humaine. Ma vie sensible, semblable à celle de l'animal. Tu vois, quand les facultés spirituelles sont arrêtées, je dors, semblable à l'animal. Est-ce que l'animal a une mémoire? Oui. C'est pour ça qu'on peut l'éduquer. Vous pouvez arriver à éduquer pour un cirque des éléphants, à faire des choses qui sont habituellement en dehors de l'éléphant. Et tout le monde rit de voir un éléphant jouer du piano. C'est évident que c'est... Parce que c'est pas tout à fait... Il faudrait un piano éléphant. Pour éléphant. Ça ne se vendrait pas beaucoup. Parce que c'est des grosses pattes, ça. C'est impossible. On a tous admiré ça dans notre jeunesse. Ça reste comme un fantasme, de temps en temps. Les femmes de La Fontaine, quand on voit l'âne qui veut faire des grâces, qui veut donner un coup de pied, pour une caresse. Hein. Il y a des caresses comme ça, des caresses d'ours. Alors, il faut comprendre quel est le lien, et ça c'est très important, le lien entre la mémoire et le corps. D'abord, donc, situer ce qui est en acte et ce qui est passif. Parce que la passivité se comprend toujours en fonction de l'acte, et pas l'inverse. Et ça, c'est aussi un grand principe aristotélicien et thomiste. C'est la découverte de l'acte, donc de la finalité, qui m'éclaire sur la puissance. Et ce n'est pas la puissance qui me fait découvrir l'acte. C'est très important, ça. Alors, il faut donc découvrir ce qu'est la mémoire, à quel niveau, ce que je viens de faire. La mémoire est un métaxu, un intermédiaire entre le corps et l'aspect spirituel. La mémoire, elle est sensible, mais elle intériorise le sensible. Puisqu'elle le garde. Il y a une immanence dans la mémoire qui montre que le sensible comme tel n'est pas extérieur. L'extériorité pure, c'est la quantité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mémoire dans la physique, dans un corps physique. Un clou chasse l'autre. On le sait bien. Donc, il n'y a pas de mémoire du premier clou. Puisqu'il le chasse. Comme telle, la quantité est de l'ordre de l'extériorité. Elle chasse, c'est pour ça qu'elle est brutale. Tandis que la mémoire garde, il y a une immanence. Mais une immanence limitée. Une immanence limitée. Je ne vais pas très loin dans l'immanence dans la mémoire. Mais il y a quand même une immanence. C'est pour ça que la mémoire est vraiment intermédiaire. Entre le monde physique et le monde intellectuel. Par rapport à l'intelligence, la mémoire garde les fantasmes, les images. Par rapport au monde physique, elle la dépasse, elle s'en sert. La mémoire se sert du corps. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin, un réalisme extraordinaire montre carnes mollas permet à l'intelligence d'être plus fine. La finesse de notre intelligence affective provient de notre corps. Carnes mollas. Donc vous voyez bien, le corps joue un rôle important. Mais est-ce que le corps joue un rôle par rapport à la mémoire, ou uniquement par rapport à l'acte actuel? Dans toutes mes activités actuelles, mon corps est présent. Je touche. Je pense. Et en pensant, mon corps corps est présent. Donc mon corps est présent à mon toucher. Mon corps est présent à ma vision. Mon corps est présent à mon odorat, à mon goût. Il est présent. Mais le corps est-il présent à la mémoire? Je pose la question. On verra ça plus tard. Avec l'ascension, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui reste de ma sensation première dans l'ascension? Il y a une sacrée purification. Et tout ça se tient. Si je veux avoir une toute petite intelligibilité de l'ascension, ça ne veut pas dire l'ascension, c'est l'imagination, pas du tout. C'est une méta-théologie.